peux me commenter le plan?
Qui fatigue aussi.
C'était Aymar, je crois, l'architecte.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est une entreprise du côté de Dinan là qui a fait la construction là.
Ah oui.
Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a des pierres qui viennent des carrières de Dinan là, à côté de Dinan là, de carrière de granit. Là, je me rappelle plus du nom. Pourtant, c'est connu. Granit bleu là, entre Dinan et Lamballe là, plus vers le fond. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, du côté de Plilon là.
Mais ils n'ont pas utilisé de grès pour la construction.
Dans celui-ci, non. Dans l'autre, oui.
Ah oui, dans le vieux.
Dans le vieux. Oui. Bon, il y a peut-être du grès dans l'épaisseur des murs, c'est possible qu'il y ait du grès. Hein. Mais celui qui a été détruit par les Allemands, alors, celui-là, il était construit avec du granit et du grès.
Et du grès rose.
Oui.
Enfin, du grès rouge.
Oui. Enfin, le grès là c'est bon, c'est pas mal, mais c'est une pierre qui est quand même plus poreuse que le granit. Hein. Elle absorbe l'eau, c'est pas pareil quoi. Ouais.
Donc il devait être très humide le vieux phare.
Ouais, ouais, ouais.
Même celui de Garangeau, là, de Vauban.
Oui, mais ce qui compensait en fait c'était l'épaisseur quoi. Donc en fait avec l'épaisseur des murs, bah, avec l'espèce de torchis et puis le truc argileux là. Donc ça isole quand même. D'ailleurs, on revient d'ailleurs à des anciennes techniques comme ça. Hein. Avec de l'argile, du chanvre, tous ces trucs-là. Hein. Ben, on revient en arrière en fait. Hein. Les maisons en briques rouges, c'est pareil. La brique, c'est un isolant aussi. Hein, donc isolant phonique et puis contre l'humidité, quoi. Ouais, ouais, ouais.
C'est très vrai.
Ouais, donc les anciennes techniques avaient quand même du bon puisqu'on retourne en arrière.
Est-ce que tu savais qu'il y avait une... Je vais te parler un petit peu du vieux phare de la vieille tour, quoi.
Ouais.
La tour à feu, que c'était Garangeau qui l'avait fait construire, l'ingénieur.
Oui, ça j'avais entendu parler, oui. Mais j'en savais pas beaucoup plus, hein. Non.
Et il y a eu un certain Thévenard.
Oui.
Qui aurait fourni en charbon.
Oui.
Le feu.
Mmh.
Et je crois aussi, Madame Thévenard s'était plaint justement à l'ingénieur Garangeau que son mari en fait avait perdu de l'argent, allait chercher du charbon, de la houille en Angleterre, parce que c'était de meilleure qualité que ce qu'on trouvait en France, très certainement, et que son mari s'était rinté, enfin avait fait pratiquement faillite quoi, et elle s'était plaint donc à Garangeau, elle avait fait pratiquement faillite. Parce qu'il devait aller chercher beaucoup plus cher d'ailleurs du charbon de bonne qualité en Angleterre pour fournir le feu. Et l'un des premiers gardiens aussi était un ancien militaire de carrière, en fait un ancien militaire ou enrôlé du moins sous les ordres du roi, et il avait pris la place de gardien de phare. Il était payé par les gens de Saint-Malo et il était très très mal payé en fait. Parce que le phare en fait était entretenu une partie par l'État français, une partie par la région Bretagne, et une troisième partie était prise en charge par les Malouins. Et les Malouins et la région Bretagne rechignaient en fait à payer, parce que en fait le phare, le feu de Fréhel était entretenu par un gardien, et c'était les bateaux de passage qui payaient en quelque sorte une dîme.
Ils payaient une taxe, oui. Ouais, ouais.
Et les Anglais, enfin les étrangers, payaient double. Et parfois, ils avaient du mal à se faire payer par les bateaux. Et les Malouins disaient, les bateaux viennent de partout, donc c'est pas à nous de financer un feu où bah, nos bâtiments de commerce fréquentent les parages, mais il n'y a pas que nous, quoi. Et en fait, on était... Les Malouins n'étaient pas d'accord pour prendre en charge. Ils disaient que c'était à l'État de prendre en charge, en fait, les frais d'entretien du phare. Donc, il y avait un certain nombre de...
Oui, parce que à l'origine, les phares, les premiers gardiens de phare, était réservé justement aux blessés de guerre. Et d'ailleurs, à la pointe du Raz, là-bas, au Phare de la Vieille, ils avaient eu des problèmes parce qu'ils avaient envoyé, il y avait un Corse en particulier, il y en avait un qui avait qu'un bras, l'autre qui avait des béquilles et puis avec une jambe. Bah, à l'époque, bah, l'administration, je crois que c'était un petit peu comme maintenant, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Parce que, en fait, pour eux, à faire, c'était pas. C'était un boulot pépère, quoi. Mais quand il fallait faire les relèves, bah, les gars, souvent, ne pouvaient pas descendre. Parce que déjà, même en étant bien valide, avec ses deux jambes et ses deux bras, c'est pas toujours évident. Alors c'est de là, quand il y a eu l'accident justement au Phare de la Vieille, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas un poste pour les handicapés. Eux, bon, c'était peut-être parti d'un bon sentiment, hein, je sais pas, pour reclasser les soldats qui ne pouvaient plus combattre. Mais en fait, ils ont trouvé un sacré combat après en mer. Hein. Et pour eux, c'était pas évident non plus. Hein.
Et ce militaire là du vieux fanal de Fréhel se plaignait justement et en disant mais garder un phare comme ça, l'alimenter en fait de nuit, de jour, dans le vent, la tempête, c'est encore plus dur que mes anciennes batailles, quoi. Que c'est encore plus dur que le champ de bataille, que le champ de guerre.
Ouais, parce que c'est vrai que là, il y a eu, enfin, disons, presque deux histoires, en fait. Hein? Parce que, en fait, le premier phare, là, qu'on considère comme le premier, est pratiquement le second, déjà, celui-là. C'est même pas le premier, celui-là. Il y a eu la tour à feu avant. Et donc, la tour à feu, là, justement, avait été commandée par les riches marchands malouins. Et donc, c'est de là que la construction avait été faite pour eux. Et c'était eux qui payaient exclusivement, d'ailleurs, le gars qui s'occupait pour envoyer le bois. Mais en fait, bon, ils sont tombés sur c'était un paysan de la région ici. Et puis en fait, bon, ben, comme il n'était pas payé régulièrement, ben, comme le gars, il tisait un petit peu, quoi, souvent il s'endormait, puis le feu, il s'éteignait, quoi. Alors, c'est de là, après, quand ça a été avec du charbon et après les lampes à huile, qu'ils ont fait le deuxième fer, parce que le premier n'était pas assez haut. Et donc avec les pierres du premier, ils ont construit donc le deuxième et ils l'ont rehaussé. Parce que c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que plus un phare est en hauteur, plus la portée est importante aussi. Donc c'est une question de logique ça. Hein. Et c'est vrai que de là, il y a eu participation des bateaux de passage. Mais c'est vrai que, comme tu disais justement, pour récolter de la dîme, c'était pas évident, quoi. C'est sûr. Et puis de là, d'ailleurs, il y a eu les idées des naufrageurs et tout ça, hein, puisque c'était des feux fixes à l'époque. D'ailleurs, les premiers phares qui ont existé, ils étaient à l'état naturel déjà, puisque c'était les volcans. Ils se basaient sur les volcans. Parce que c'était, quand ils étaient en éruption, on les voyait de très loin la nuit. Eh oui.
Ah, tu vois, ça, je savais pas ça.
Oui. Et après, ça a été des feux, justement. Alors, ces feux-là, bon, ça a causé problème justement par rapport aux naufrageurs. Hein. Mais les feux fixes, d'ailleurs, pour les entrées des principaux ports, ils avaient fait des feux déjà. Hein. Déjà, même au 5e siècle avant notre ère, il y avait déjà des phares qui étaient construits. Alors, c'est vrai que le principal, bon, ça a été celui de l'île de Pharos, quoi. D'où le nom phare.
Mais les phares étaient peut-être aussi, enfin les premières tours à feu étaient aussi des tours de guet, non?
Oui,
Peut-être.
mais c'est vrai que dans beaucoup de régions, les premiers phares étaient gardés par des moines. Beaucoup. Parce qu'en fait, bon, c'était souvent dans les endroits isolés, et puis bon, c'est vrai que les conditions de vie, c'était pas des conditions de vie extraordinaires, et puis bon, ça convenait bien aux moines, quoi. Mais après, petit à petit, bon, ça a changé, quoi, c'est devenu civil après.
Comme à
Enfin,
Saint-Mathieu.
militaire d'abord, et puis civil après, quoi. Hein. Ouais.
Parce que c'est vrai que
Ben, c'est
sur le quai,
Napoléon qui a créé le service des phares et balises, en fait. Hein.
parce qu'avant c'était militaire, c'est
Voilà.
resté très peu de temps, mais c'était quand même militaire.
Voilà.
C'est juste. Alors, ton nouveau phare. Parce que je regardais les plans hier justement du nouveau phare, parce qu'on va peut-être essayer, enfin du phare de Fréhel actuel, on va essayer de le modéliser en 3D, tu vois.
Oui, Par contre, ici, la côte, elle n'est pas bonne.
Ah, l'altitude.
Ouais, c'est 70 mètres.
70 mètres.
Oui, parce que ça, j'ai su il y a 5 ans à peu près. Il y a des gars de l'IGN qui sont venus, donc ils ont été ici. Donc il y en avait un ici sur la pelouse, au niveau de la pierre d'ailleurs, la borne qui est sur le milieu. Et il y avait un autre gars à la pointe de 5 ans au sémaphore. Et donc, bon, j'ai laissé faire ses relevés d'abord, quoi. Hein. Bon, j'ai pas voulu le détourner de son boulot. Et il m'a dit, si, 2 minutes. Bon, j'ai attendu. Et je lui ai demandé l'altitude exacte. Et c'est 70 mètres et quelques centimètres. Ouais.
Donc il y a une erreur sur le
Je
plan.
dois avoir les côtes exactes à la maison. Je ne sais plus qu'est-ce que j'en ai fait, mais je les ai. Le fer, donc à la passerelle, ça fait 24 mètres. Et 32 mètres au niveau de la lanterne, en haut de la lanterne. Par rapport au sol, hein, 32 mètres, bien sûr. Ce qui veut dire que, en fait, le plan focal, hein, c'est-à-dire que là, c'est marqué 29 mètres 60. Bah oui, le plan focal, en fait, il est bon par rapport au sol. Mais ça fait 29, 99 mètres, 60, mais en fait, bon, c'est 100 mètres à 40 cm près, bon, c'est bon, quoi. Ouais.
Alors, il se compose comment le phare? Au rez-de-chaussée?
Alors ici, ben, c'était le logement du deuxième gardien, ici. Bon, là, c'est le logement du gardien-chef, comme on disait. Donc ici, c'est la salle d'accueil. Là, c'est la porte d'entrée, bon, qu'on n'utilise pas souvent, mais bon, qui sert quand même en cas de problème, bon, on peut l'ouvrir en grand. Ici, donc, c'est l'entrée du local technique. Alors ici, il y avait l'atelier, donc, qui a été transformé en chambre de remplaçant, de passage. Ici, c'est le magasin. Et donc, c'est mon logement qui est là, quoi, à droite.
Et quand on commence à monter les étages?
Donc, il y a 6 paliers de 20 marches. Donc ça fait 120. Le septième palier, on a 22. Ça fait 142. Plus 3 en partant de la salle pour attraper ici. Ça fait 145. Et il y a 15 métalliques pour arriver à la machine de rotation. Donc ça fait 160 marches en fait, quoi.
Donc ça, c'est la chambre de veille est située à cette hauteur-là.
Alors en fait, la chambre de veille... À l'époque, les chambres de veille, ben, comme celui-ci, hein, il n'y a pas de local spécial. On faisait la veille à la lanterne carrément, sous l'optique. On faisait la veille sous l'optique. D'ailleurs, au phare d'Armen, on avait une vieille paillasse. C'est un truc. C'est vrai que quand on parle de prison, on voit les trucs dans les prisons, mais ce qu'on avait nous, on a la santé. Oui.
Dans l'humidité.
Oh là, l'humidité, le froid, oh, j'ai eu la barbe à geler, hein. Et c'est vrai que au phare d'Armen, on ramassait le mercure à la pelle et la balayette, hein. Le matin, quand il y avait des tempêtes comme ça, le phare remue. Et en fait, comme c'est des machines de rotation mécanique avec des pignons, un système d'horlogerie, eh ben en fait, ça faisait un bruit abominable, quoi. Des fois, on se demandait si ça allait tenir, mais bon, ça tenait quand même. Et en fait, comme l'optique flotte sur un bain de mercure, et ben avec la poussée du poids de l'optique, ben le mercure ressortait de la cuve. Alors nous, c'était la totale, quoi. On avait le mercure, on avait les vapeurs de pétrole et on avait l'amiante qu'on mettait dans l'injecteur. Alors vous voyez? Ah ouais. Mais bon, c'était chouette quand même, quoi. Ah, avec tous les cuivres qui brillaient et tout ça. Oh, c'était un métier, quoi. Puis de toute façon, hein, celui qui n'aime pas, de toute façon, il ne tient pas le coup, donc n'importe comment.
Qu'est-ce qu'on appelle un phare à l'huile minérale?
Oui, c'était l'huile de colza, c'était lampe à huile. Au lieu que ce soit du pétrole, ben, c'était de l'huile, tout simplement. Alors, c'était des machines sous pression. Ah donc les premières lampes, c'était des lampes... Oh, j'ai plus le nom maintenant. La première lampe, c'était un Suisse qui l'avait fabriquée.
Carcel?
Non. C'est pas son
Argan.
Nom. Argan. Voilà. Les lampes d'argan.
C'était les premières lampes.
Les premières lampes, oui.
À double courant d'air.
Voilà. Et donc, celle-là était à mèche plate. Oui. Et après, donc, quand Gustave Fresnel a fait son optique, là, il y a eu justement l'idée de faire une mèche circulaire. Le rendement était meilleur.
Mèche concentrique.
Voilà. Donc la luminosité, la luminescence, enfin comme on veut, est largement supérieure à la mèche plate. Ça en fume beaucoup moins. Parce qu'il y avait moyen de la régler.
Et la mèche était fermée, cousue?
Oui. C'est une mèche très ronde, avec, par contre, avec une coupure dans le milieu. Donc pour que les deux mèches aillent pomper le pétrole de chaque bord. Donc la mèche était comme ça. Donc là c'était tressé. Donc ici il y avait donc une coupure. Donc il y avait la moitié d'une mèche qui partait d'un côté, l'autre moitié de l'autre côté. Comme ça, ça trempait bien dans la cuve, dans le bas.
D'accord.
Parce que si on l'avait fait droite par rapport à la tresse, ça n'aurait mal fonctionné. Parce que ça marche par capillarité. Et donc, ils ont gardé le morceau tressé donc dans le milieu pour que ça brûle moins vite. Et donc là, sur le dessus donc de la lampe, donc il y a la couronne, bien sûr, tout autour. Hein. Et en fait, il y avait un instrument. Voilà, qui servait de grattoir. Enfin, et qu'on passait sur le dessus pour nettoyer la mèche. Parce que en fait, arrivé à un certain moment, ça arrivait à charbonner. Mm-hmm. Et quand ça charbonne, c'est pas bon. Mm-hmm. Parce que là, c'est là qu'on enfume justement. Mm-hmm. Et donc quand c'est charbonné sur le dessus, on réussit pas à allumer la lampe correctement. Donc il faut que la mèche soit à nu, de retour. Hein, donc il faut qu'on voit toutes les je ne sais pas comment appeler ça, les fibres quoi. Il faut qu'on voit les fibres avant de l'allumer. Parce que si c'est charbonné sur le dessus, c'est pas bon.
Et toi, tu as eu l'occasion de travailler dans des phares équipés encore à l'huile minérale?
Non.
Non, mais tu connais bien
pétrole.
Le principe.
Mais je connais le principe, ouais.
Le pétrole, tu nous avais très très bien expliqué l'autre jour. L'allumage d'un feu à pétrole, à vapeur de pétrole.
Oui, mais bon, c'est vrai que bon, bah, moi j'ai ça dans la tête, mais c'est vrai que tant qu'on ne voit pas un feu à pétrole devant soi, c'est difficile à imaginer en fait, quoi. Mm-hmm. Ah bah oui, je pourrais encore vous faire un allumage de feu à pétrole sans problème. Hein.
Il y aurait où est-ce qu'on aurait pu le faire ça? Parce qu'on s'était dit que ça serait intéressant de le filmer, ça. À Les Andrieux, peut-être?
Bah, Les Andrieux, oui.
Jean-Yves serait
d'accord.
Ouais,
si, hein. S'ils ont encore le matériel, quoi. Je suppose, quoi. Je suppose qu'ils ont toujours. Par contre, ils ont bloqué la machine de rotation. Alors, c'est vrai que je connais mieux les BBT que les Sauterre Harley. Alors, une BBT, il n'y a pas de problème. Je peux faire n'importe quoi dessus encore. Mais la Sauterre, une fois bloquée, je sais qu'il y a une astuce, mais je ne sais plus où elle est. C'est ça le problème. Mais il me semble qu'on doit démonter le cache en verre et qu'il y a un cliquet quelque part à enlever pour faire descendre le poids. Parce qu'ils ont bloqué le poids en position haute. Ça, c'est encore des malins, ça. Un poids ne se remonte jamais à bloc. Jamais, jamais, jamais. C'est comme un réveil hein, mécanique. Hein. Ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, puis après, il va rester bloqué, puis faut le démonter, quoi.
Au phare des Hautes-Brières, je crois.
Oui.
Lorsqu'il était encore à pétrole.
Au pétrole, oui, bien sûr. Oui. Ouais.
Et c'est le système d'Armen, je crois, ils ont dû prendre peut-être pas le brûleur, mais lorsqu'ils ont remplacé l'appareil en 1901, Ils ont, en 1905, ils ont installé l'éclairage à l'incandescence par la vapeur de pétrole au Hérault de Bréhat. Et ils ont dû mettre un feu provisoire avec des becs carcel dans le cadre du feu provisoire. Et puis ils ont rallumé le feu définitif en 1902. C'était un feu à secteur, je crois. Enfin, un
Un
feu
feu à secteur,
blanc d'horizon et un feu à secteur
oui.
rouge pour éclairer le plateau de Barguic. Et là, ils ont installé des nouveaux brûleurs de 85.
Ouais, c'était un feu à occultation, puisqu'il y avait des caches qui passaient devant.
Et c'était des brûleurs, je crois, à manchon souple, mais peut-être pas dans ton temps.
Non, c'était à vapeur de pétrole avec les manchons, les types OR, là. C'était les meilleurs d'ailleurs ceux-là. Ouais. Parce qu'on en avait d'autres, des. Il y a eu une autre marque qui est venue sur le marché. Mais alors ceux-là, on n'en voulait pas. On nous a refusé quand même. Bon, on les a utilisés, mais alors avec les chocs et la pression, ils tenaient mal. Et pour les former même. Parce que les manchons, il y avait une technique pour les former. Il fallait bien le replier en zigzag sur le brûleur, avec l'entrée libérée. Et donc avec la pression du pétrole, fallait que le manchon se développe bien pour qu'il soit bien incinéré. Parce que si on voyait qu'il était un petit peu cabossé, quand c'est comme ça fait pas long feu. Ah ouais.
Et tu disposais d'une lampe à Aladin aussi?
Ouais. Dans tous les phares à pétrole, il y avait la lampe Aladin. Il y en avait deux.
Et comment
Ouais.
fonctionnait? Comment tu pourrais la décrire, la lampe à Aladin?
Bah, c'est le système du brûleur à pétrole, quoi, en fait. Sauf qu'il n'y a pas de pression. C'est comme une lampe à pétrole qu'on trouve dans le commerce, en fait. Sauf que la qualité de la lumière est supérieure. Parce qu'il y a aussi un petit manchon dessus. Alors, c'est vrai que ça éclairait bien. Alors, ces lampes-là aussi, il fallait savoir les utiliser. Parce que, bon, c'est un petit peu comme à la maison. Fallait attendre que ça chauffe bien pour régler la mèche. Parce qu'au début, il faut mettre la mèche assez haute pour que ça chauffe bien. Puis après, il faut la rabaisser. Parce que s'il y a trop qui arrive, on enfume tout et puis bon, il n'y a plus de lumière, quoi. Et on enfume l'optique en même temps, alors c'est pas terrible non plus, quoi. Là, avec un temps comme ça, là, avec les vents d'ouest, les paquets de mer passaient par-dessus par-dessus le plateau. Et donc, il fallait calculer le nombre de vagues avant de descendre. Alors, l'escalier était comme ici, à descendre. Et donc, il y avait paquets de mer qui passaient par-dessus comme ça. Alors, quand on était dans le fer, on calculait, on descendait vite fait. De ce côté-là, c'était le vide, et puis les rochers en bas, quoi. Il y avait juste un escalier qui n'était pas très large. Et après, on rentrait dans la roche, en fait, quoi.
Que la cuisine était donc
Dans la roche.
construite dans la roche.
Ouais. Et donc c'était bah, en arrondi, quoi. C'était en voûte comme ça, alors question humidité, bonjour. Oh la condensation. Oh, c'était dingue.
Il n'y avait pas un poêle?
Il y a eu un poêle à charbon, ouais. Mais quand j'y étais, le poêle n'existait plus. Là on avait la. Ça caillait là l'hiver. Hein. Alors ce qu'on faisait, bon, bah, j'avais ramené des pots de fleurs de terre. Vous savez, les ponts en terre, on mettait ça sur la gazinière à l'envers, puis on allumait le feu. Ça faisait chauffage à accumulation, quoi. C'est système D, ça.
Ah, très bon, très
Bah
bon.
oui, parce que si vous mettez de l'eau, bah avec une gamelle d'eau, on peut le faire aussi, mais ça fait de la condensation en plus. Parce qu'avec les pots, vous en mettez 2-3 l'un par-dessus l'autre. Et bah en fait, l'humidité est absorbée par le pot de fleurs. Et puis en fait, ça dégage de la chaleur, quoi. Ah ouais.
Très bonne astuce.
Ça, c'est système D, ça.
Et est-ce que la chambre de veille était lambrissée?
La chambre de veille au triagos?
Oui.
Ouais.
Avec une échelle métallique
Voilà,
pour
qui
monter
grimpait, donc
au.
l'échelle métallique était à gauche, donc pour grimper à la lanterne. Ouais.
Et c'est un phare qui devait être dur, non?
Le phare par lui-même était sain, hein. Il était assez sain. Par contre, c'est dans la cuisine, bon, c'était pas terrible, quoi. Mais le phare par lui-même, autrement, ça allait. Les pièces étaient assez grandes. Ah ouais, les chambres étaient plus grandes qu'ici, hein.
Ah bon?
Ah oui. Ah ouais. Bah, c'est une tour carrée, hein. Donc c'était plus facile, déjà, quoi. Ouais.
Et vous étiez chauffé comment?
Ben, on avait des chauffages système à bain d'huile au pétrole, quoi. Ouais, sacré souvenir. On fumait ma piole un coup. En plein hiver, ça caillait! Je termine mon care, donc j'avais allumé avant de monter prendre mon care. Et donc en descendant, je réveille le collègue, quoi. Je dis, bon, ben, ça y est, il est l'heure, quoi. Oh, je redescends. J'ouvre la porte. Oh, je voyais rien dans la chambre. Tout noir, enfumé. Mais de la fumée en plus, quoi. Hein. Oh, je suis parti, comme on dit, au radar pour ouvrir la fenêtre. Ça caillait, mais toute la chaleur est foutue le gant, quoi. Hein. Mais bon, je suis quand même parti me coucher le lendemain matin. Ah oui, parce qu'on n'avait pas de courant électrique, hein. C'était la lampe de gardien qu'on avait, la lampe à pétrole, quoi. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, l'état. Abominable. Ah là, j'ai eu du boulot, hein. Alors, toutes les couvertures sur le dessus, bon, bah, pleines de poussière
La
du
suie
gras de
partout.
pétrole, quoi, la suie, quoi. Sur les murs, pareil. Le parquet, pareil. Enfin, bref, partout, quoi. Voilà, bah, j'ai eu toute la journée pour nettoyer, quoi. J'ai pas pu dormir beaucoup. Et en plus, comme ça caillait, obligé de laisser ouvert. Alors, l'odeur, bon, maintenant il y a des produits pour tirer les odeurs, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Ça fait rien, on dormait quand même. Tellement l'habitude de l'odeur du pétrole qu'en fait, ça gênait pas, quoi.
Et tu étais avec qui au Triago?
J'étais avec Auguste Carvenac.
Avec Auguste.
Et il y avait Jean-Yves Lantoine aussi qui était là-bas. Lui, je l'ai pas vu, ça fait des années déjà. Lui, il a eu un parcours un petit peu spécial, lui. Autrement, bah, aux Sept-Îles, j'étais avec Raffini, Robert Quémant, Yassine Daniel. Aux Roches-Douvres, bah, j'étais avec François, avec Milon. Bah, j'étais aussi avec Claude Bougon.
Yves-Évin, tu as connu aussi?
Évin, je l'ai connu, mais je n'ai pas été au phare, lui. Ouais.
Dans quel phare il était, lui?
Lui,
Aux
il a fait les
Sept-Îles,
Sept
oui,
Îles.
tout à
Ouais,
l'heure,
ouais,
c'est ça.
ouais.
Je dois aller le voir, là.
Il y a eu un marchand aussi.
Un marchand, oui.
Ouais. Le père, je ne l'ai pas connu au phare, mais le fils, oui, Yannick.
Et au Triago, vous aviez, dans les phares en mer, par rapport à justement à des sauvetages éventuels, vous aviez une bouée couronne ou bien
Oui.
un fusil lance-amarre
Oui.
ou pas dans tous les phares peut-être si.
Pas dans tous les phares, mais bon, peut-être qu'il y a eu. Mais bon, ça c'est du matériel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais c'est vrai que des lance-amarres, on avait, puis des bouées-couronnes. Des bouées-couronnes, il y avait dans tous les phares. Hein.
Tous les phares
Ah
avaient.
oui. Ouais. Des systèmes de va-et-vient, quoi. On pouvait faire des systèmes de va-et-vient avec le bateau. D'ailleurs, à l'époque, j'ai vu d'ailleurs dans les anciens bouquins comment c'était foutu, leur ancien truc là. C'était des espèces de, comment on appelle ça, des culottes brassières. Le gars, il s'installait dedans, puis bon, il y avait une poulie sur le câble ou sur le bout, et puis on l'amenait comme ça, quoi.
Au Triago, vous aviez un lance-amarre?
Il me semble qu'il y en a eu
Il a
un.
dû y avoir un, hein.
Ouais.
Avant quoi? Avant le naufrage, Gérard Milon nous expliquait le naufrage qu'il y a eu d'un bateau de pêche là.
Ah oui, au
Au Triago,
Triagos,
ouais.
ouais. Ouais.
Où ils ont lancé la bouée
Ouais.
et le gars n'a pas pu l'attraper. C'est noyé avec un bateau de pêche, quoi. Dur, quoi.
Il y a eu quand même deux ou trois de récupérés quand même dans un naufrage au Triagos, là.
Ah oui?
Ouais, bateau de pêche, ouais.
Par les gars du phare.
Ouais. Ouais.
Donc quoi, tu vois, un phare habité, c'est utile.
Bah oui, les gardiens n'auraient pas été là ce jour-là, je crois que. Ils n'auraient pas été là pour parler maintenant, je crois pas. Parce que là, c'est un sale coin aussi, là, du côté des Triagos, là. Il ouais, y a du courant et. C'est vrai que avec tous les rochers qu'il y a là, être trimballé parmi les rochers. Le gars, souvent, il meurt on dit noyé, mais bon, en fait, c'est pas noyé qu'ils sont. Hein. Les gars, ils sont en hypothermie, et puis. Les gars meurent de froid avant de mourir noyés, quoi. Ou alors, ils sont assommés contre les cailloux, enfin, bref. Enfin, le résultat est le même, quand même, de toute façon, mais bon.
La corde de brume, elle ne fonctionne pas là actuellement là, par un temps comme ça, non?
Non, non, non,
Non?
tant qu'il y a de la visibilité, c'est bon. Ouais.
Et elle fonctionne comment celle-ci là?
Celle-ci, c'est système de vibrateur. C'est-à-dire qu'il y a des ailettes qui tournent, bah, comme le truc des pompiers, vous savez. Ce qu'on a en plus, c'est une membrane. Et donc, l'air qui est pulsé sur la membrane donne un son sourd. Parce que s'il n'y avait pas la membrane, ça ferait un son aigu. Hein, comme pour les pompiers, un peu quoi. Et les sons sourds portent beaucoup plus loin en mer que les sons aigus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours au ras des falaises. Alors, c'est vrai que quand on donne une portée pour une corne de brume, on donne toujours une portée moyenne. Parce que ça dépend de la direction des vents et ça dépend de la hauteur de la marée. Ah oui, parce que l'écho se fait pas de la même façon si la mer est haute ou si la mer est basse.
Je crois que les marins-pêcheurs avaient réclamé une corne de brume aux roches d'Ouvre.
Ouais, elle est en fonction. Ouais. Bah ici d'ailleurs c'est pareil, hein. À ce qui paraît, il y aurait le service qui demanderait à les arrêter. Alors je trouve ça complètement aberrant, alors qu'ici ils sont en train de demander plus de puissance justement à la corne de brume. Alors là-haut, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique, c'est les économies de bout de chandelle, je sais pas.
Tu tiens toujours un registre des phares, c'est toujours d'actualité. Le registre.
Ah, le cahier de quart, oui.
Oui, le cahier de quart,
Ah
pardon.
oui, toujours, hein. Ah oui, celui-là, je continuerai jusqu'au bout, hein. Ça, c'est clair. Hein.
Et qu'est-ce qu'on écrit sur le cahier de quart?
Oh, tout n'est pas écrit, en fait, dessus. Parce qu'il y a des choses, bon.
Quand tu utilises la
Voilà.
serpillière pour.
Ouais, parce qu'à l'époque, il marquait vraiment tout, c'est le cas de le dire, quoi. Hein. Mais maintenant, bon. Il y a plein de trucs que je marque pas dessus, quoi.
Est-ce que c'est sur le cahier de carte qu'on marque l'heure
D'allumage et d'extinction, oui. Ouais. Alors, s'il y a intervention, par exemple, sur le matériel du cross, pour la corne de brume, enfin bon, tous les événements logiques et normaux, quoi. Ouais.
Et cahier de visiteur.
Ah, plus.
C'est fini
Ouais,
ça.
ouais, 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 ouais. Bah oui, ici, c'est pas possible d'avoir un cahier de visiteur.
Il y a trop de visiteurs.
C'est-à-dire qu'ils arrivent par paquet et puis les gens, souvent, ça monte, ça descend, ni bonjour, ni bonsoir, ni merci. Alors, c'est quoi ça? Il n'y a que ça à voir. Ouais, mais les gens sont montés, sont descendus, ils n'ont même pas eu le temps de regarder. Ils n'ont rien vu, en fait, quoi. Mais maintenant, c'est arrivé comme les Japonais. Alors, on voit les caméscopes se balader, les appareils photo clic-clac, et puis voilà, ça file. Sans avoir posé une seule question, hein. Ah oui. Les gens, des fois avec certains, je leur demande, mais ça y est, vous avez été faire un tour. Ah ouais, ça y est, on a vu, on a pris les photos. On les fera voir quand on arrivera aux collègues et tout ça. Je suis sûr que leurs collègues leur posent des questions. Ou alors c'est la même race peut-être, quoi. Ils posent peut-être pas de questions, quoi. Ils regardent, quoi, je sais pas.
Si tu veux faire des.
C'est. Mais c'est fou, quoi. Moi, quand je vois ça, je dis c'est pas possible, quoi.
Tu veux faire des fiches pédagogiques pour les enfants à partir qui vont découvrir l'exposition, il faut que tu t'appuies sur l'enregistrement qu'on a fait, le précédent aussi qu'on a fait. Oui, il est avec Yves Kneuzé là actuellement. Mais.
Ah oui.
Puisque moi c'est sur mini disque, mais lui il l'a sur CD pour l'écouter. C'est le scénographe de l'exposition. Mais il faut que j'en fasse une cassette audio pour qu'il puisse écouter. C'est vraiment bien.
Je peux lui demander qu'il me grave le
Oui, qu'il
CD.
te grave en CD, ouais.
Tu me plais.
Est-ce que tu as entendu parler, mais ça c'est au début du siècle, hein, c'est loin, d'un certain Gustave Loiseau, qui était un peintre et qui serait venu passer quelques temps au Cap-Frêle. Il y avait des demandes en fait d'artistes qui venaient en résidence, qui demandaient l'autorisation à l'administration de passer quelques jours au phare.
Non,
C'est
non,
toujours
j'ai
jamais
pas
arrivé ça.
entendu. Oh si, si, si,
Ah
oh là là, oh oui. Oh là oui, oh là là. Oh oui, même pour le passage à l'an 2000.
Ah bon?
Ah oui. Ah oui, ils voulaient aller sabrer le champagne en haut. Ah ouais. Ouais. Oh, mais j'ai refusé parce que c'est la grosse pagaille. Et puis bon. Et puis les personnes en plus, mais vraiment comme si j'étais vénal à ce point-là, quoi. On vous enverra une caisse de champagne et tout. J'ai dit, de toute façon, j'ai eu la caisse de champagne, vous pourrez la boire si vous avez envie. Mais j'ai dit, moi je veux pas de pagaille là-haut, question de sécurité et tout. Non. Ah oui, ici on entend tout. Ah oui, il y a des gens qui voudraient passer des nuits ici. Tout juste, ils voudraient pas passer leurs vacances, quoi. Ah ouais. Oh. Ah, il y a des trucs affolants.
J'ai pensé à... j'ai lu en fait qu'il y avait des pigeons voyageurs qui étaient attachés au service des phares et balises.
Ça a dû peut-être exister, c'est possible, mais là, franchement, je peux pas vous répondre parce que.
Alors, je pose des questions parce que je me disais, au Triago, mais en fait, c'est une erreur de ma part, je me disais, ça ressemble à un pigeonnier, cette construction.
On l'appelait le pigeonnier d'ailleurs. Là. On l'appelait le pigeonnier.
Ah.
Ouais, c'est le terme qu'on lui donnait.
C'était pas les toilettes, ça ou...
Non, les toilettes sont à côté. Ah oui, oh, les fameuses toilettes. Ah oui, on fait puis on se lave en même temps. Ah, ouais. Alors là, faut calculer aussi, parce qu'il faut avoir besoin de faire ses besoins à un certain moment, parce qu'autrement...
Tu restes coincé, tu ne repasses pas.
Ah, il y a eu une sacrée partie de rigolade. Oh là là.
Mais ah ouais. Il servait à quoi alors ce
pigeonnier
à l'origine?
Oh, il servait de dépôt de matériel, celui-là, un petit peu. Et il y avait un puits à l'intérieur.
C'est le puits, en fait.
Ouais.
Il y avait un puits.
Un puits. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'est l'eau de pluie qui était récupérée là-dedans. Mais bon, avec les coups de boutoir et tout ça, bon, ça a dû fissurer. Et en fait, il y a eu de l'eau de mer qui est rentrée dedans. Alors c'était plus ou moins somate, mais enfin bon, elle était claire quand même, hein, elle n'était pas sale. Mais on faisait la vaisselle avec. Oh. Ah bah oui, parce qu'on avait juste qu'un bidon de... Ça faisait combien? 30 litres. Donc deux bidons de 30 litres pour faire la semaine, hein, en eau douce. Hein. Donc il fallait limiter.
Et vous étiez livré justement en eau douce, éventuellement, ou en pétrole dans le temps? Vous étiez livré comme...
Par bidon.
Par bidon?
Ouais.
Et tous les mois, toutes les semaines, tous les 6 mois?
Au Triagos, on avait donc des cuves, donc on recevait ça. Oh, je me souviens plus exactement. Ça, faudrait voir sur les cahiers de guerre des.
Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé, je sais, à fretter, plutôt que de livrer plusieurs fois dans l'année, ils avaient pensé à fretter un plus gros bateau baliseur et livrer 2 fois par an. Mais bon,
je sais pas. Oui, à l'époque, c'était par bidon que ça se faisait. Hein. Par contre, dans le Finistère, c'était par. Une cuve qu'il y avait dans le bateau avec une pompe refoulante. Parce que dans le Finistère, ils étaient plus modernes que nous. Hein. Ah oui, au Triagos, on avait la bassine galvanisée pour chauffer l'eau, pour faire la vaisselle. Et là-bas, on avait un évier, on avait un chauffe-eau. Moi, quand je suis arrivé là-bas, c'était le luxe.
Où ça, par exemple?
Armen.
Armen.
Ouais, il y avait même des douches là-bas. Il y a un système d'eau courante. On avait une pompe Japy pour remplir une cuve dans une des chambres. Et puis après, par gravité, quoi, on avait l'eau courante. Ah ouais, quand j'ai vu ça, je dis, oh, c'est le luxe.
L'eau chaude alors?
On avait l'eau chaude. Ah ouais, ça c'était quelque chose. Hein.
Parce qu'au Triago, on n'avait pas
d'eau chaude. Ah, il n'y avait pas d'eau chaude. Ah non, il n'y avait pas d'eau courante. Hein. On avait juste, vous dites, 2 bidons de flotte et puis on devait chauffer l'eau dans la gamelle. Ah ouais, alors l'hiver, pour faire la toilette, on mettait l'eau chaude dans un seau et puis on allait plutôt dans sa chambre pour faire sa toilette parce que dans la cuisine, ça caillait. Hein. Ah ouais?
Et est-ce que lorsque l'ingénieur vient au phare, tu hisses encore le drapeau?
Oh, puis maintenant, non. Alors, dans les phares en mer, on le faisait. Ah oui, je l'ai fait. Ah oui. Ah oui, mais c'est vrai que la mentalité n'était pas la même avant. C'est-à-dire qu'il y avait quand même le respect de l'ingénieur. Parce que déjà, son arrivée était annoncée. Et ensuite, il demandait l'autorisation de monter à bord. Très important. Même la roque le faisait. Hein. Ah oui, il gardait les traditions. Ah oui. Tout le temps. Même ici. Hein. Quand il arrivait ici, il demandait l'autorisation de rentrer dans le phare. Ah oui. Ah oui, parce que un phare habité est considéré comme une habitation privée. Ah ouais, on est chez nous. On passe plus de temps dans un fer qu'à la maison, en fait. Enfin, on passait, puisque maintenant, bon, ça va changer. Mais.
Les RTT.
Oh, ça, c'est une grosse connerie encore. Ça. Alors, je suis qu'à inventer ça, mais je dis pas chapeau, parce que je sais pas si ça va améliorer les choses. Hein.
Alors, toi, par enfin, exemple, bon. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu fais des horaires de bureau, pratiquement.
Ouais. Ouais, mais en fait, les horaires de bureau, là, c'est toujours pareil. Comme là, bon, on est mercredi aujourd'hui, j'ai été obligé de chercher mon pain à Fréhel, puisque la boulangerie, tout est fermé le mercredi ici à Plévenon. Bah, le pain, c'est pas la nuit, je vais aller le chercher. Hein. Ah, comme j'ai dit au patron, mais j'ai mis mes heures, j'ai dit, comment je calcule mes heures? C'est difficile à dire. Hein.
Ah, parce que normalement, t'es en service de nuit, t'es pas en service de jour, c'est ça qui est très
étonnant. Ouais, alors maintenant, on m'a filé en service de jour. La nuit, je suis libre, je peux aller au cinéma. Il me dit, maintenant, vous pouvez aller au restaurant. Il me dit. Ah oui, parce que je lui avais dit, la communion de mon filleul, j'ai pas pu aller. J'ai loupé deux mariages. Bon, et puis des repas, parce que j'ai fait connaissance avec des touristes. Oui. Et puis bon, qui logeaient dans le coin. Et puis on est resté jusqu'à de 6h jusqu'à 8h30 le soir à discuter. Puis on a été invité au restaurant avec eux. Et puis bon, on aurait pu avoir une vie sympathique en fait, quoi. Mais en fait, ici, c'est pas possible, quoi. Alors il me dit, bah, maintenant, vous pourrez aller au restaurant. Alors, je dis, il faut pas rigoler comme ça. Il avait l'air de se foutre de moi. Et qui dit, le week-end, vous serez libre. Bah, je dis, mais moi, j'ai jamais demandé ça. Moi, j'ai affaire, ça fonctionne la nuit. Moi, ce que je demande, c'est un deuxième gardien. Parce que là, pendant un an, j'ai eu un remplaçant, donc un deuxième. Qu'a fait le deuxième et moi, on faisait 8 jours de service et 8 jours de repos. Là, ça allait. Bon, et puis bon, dans la journée, bon, quand le temps est clair, qu'il n'y a pas de problème, bon, ben, le gars, il peut aller faire ses courses quand même, quoi. Bon, il est pas attaché avec une chaîne, quoi, même pendant ces 8 jours de service, quoi.
Oui, mais bon, le phare est électrifié, mais cependant, c'est toi qui mets en route pour l'allumage.
Il y a les deux systèmes, il y a le système manuel et le système automatique. Alors maintenant, ils m'ont foutu un télécontrôle. Elle m'a dit, ah ben maintenant, plus besoin, il y a le télécontrôle. Tu nous dis quand tu perds, donc il y a quand même un moyen de contrôle des gens. Donc j'ai dit, bon, maintenant, c'est même plus de la liberté, c'est de la liberté surveillée, en fait, quoi. Mais c'est arrivé fou, je suis en train de me demander s'ils sont pas essayés de me dégoûter, quoi. Parce que c'est vrai que ça, c'est pour moi, c'est pas une vie, ça. C'est pas un travail logique, quoi.
C'est pas un travail de gardien de phare.
Mais non.
Parce que tu fais plus de veille de nuit.
Voilà. Fait. Et je lui ai demandé, bon, ben, j'ai de la pointeuse, on la met où, quoi? Ah, il n'y aura pas de pointeuse, qui me dit, mais il ne s'est pas démonté, quoi. Il n'y aura pas de pointeuse. Ben, j'ai dit, parce qu'au début, j'ai dit, mais les heures, ça sera comment? Parce que j'ai l'été. J'ai là, maintenant, bientôt, là, quand le temps va être beau, il fera rajouter des rideaux sur la lanterne. Ah ouais, parce que l'optique, ça fait loupe dans un sens avec la lumière, mais ça fait loupe aussi dans l'autre sens avec le soleil. Il me dit, oui, mais dans les autres fers, il n'y a pas de rideau. Je dis, le système de l'optique n'est pas exactement le même. J'ai la concentration ici, l'optique, elle est plus grande, et la concentration est supérieure. J'ai les lampes, là, vous pourrez les changer tous les mois. Hein. Si vous ne mettez pas de rideau sur la lanterne, les fils vont fondre, déjà. Les dominos vont fondre. Ah oui, moi, ça m'est arrivé déjà ici. Hein. Même en mettant les rideaux, donc en retournant, d'ailleurs maintenant j'ai changé mon système pour mettre les rideaux, parce qu'avant je les faisais en allant. Et donc il fallait que je repasse devant les rideaux que j'avais mis pour redescendre l'échelle. Et donc en redescendant, j'ai pas fait attention, et il y a un rideau qui s'est écarté de ça simplement. Ben, de ça l'été c'est énorme. Parce que le soleil, il va rester à temps beaucoup plus important en été qu'en hiver, sur cette position-là. Et puis alors là, c'est terrible les dégâts que ça peut faire. Alors j'étais monté donc l'après-midi. Oh, j'ai dit, si ça pue. Ah, les trucs avaient fondu, les dominos. Là, il y avait un filament, le domino avait fondu, puis ça puait, il y avait de la fumée, ça sentait mauvais. Alors il a trouvé la parade, bien sûr. Alors il m'a dit, bon, ben, on va faire les horaires décalés. Alors bien, mais sans rien au bout, quoi, en fait, quoi. Alors, je commencerai donc ben, le matin pour l'extinction. Bon, déjà, c'est tôt le matin. Alors, il me dit, bon, ben, vous aurez une coupure dans la journée. Ah oui, parce que le soir, il faudra tirer les rideaux vers les 10h30, quoi. Ah oui, mais là, il faudra payer 10%. Vous voyez, des trucs... C'est fou, quoi. Fou. Ah ouais, j'ai jamais vu ça. Je dis, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. D'ailleurs, quand je vais employer le mot technocrate, ça lui avait pas trop plu, mais bon. Et comme j'ai voulu lui mettre des points sur les i, on arrête la réunion. La réaction tout de suite. Alors comme j'ai dit, mais excusez-moi monsieur, mais il me semble qu'on est en République, on est ici pour discuter. Donc moi j'ai toujours dit franchement ce que je pensais. Puis voilà, c'est tout. Alors du coup il s'est calmé quand même quoi.
Mais les rideaux de lanterne étaient obligatoires autrefois, il y avait des rideaux en raffia même.
Oui. Ça, bah, maintenant c'est en truc de voile là, mais ça c'est pas costaud comme truc ça.
Partant de guerre, il fallait pouvoir aussi occulter les rideaux, occulter la lanterne.
Ben, quand tu étais monté avec moi, tiens, ces panneaux-là sont dans l'ancien fer. Tu te rappelles pas les avoir vus?
Oui, oui, juste. Oui.
C'est ceux-là.
C'est ceux-là, les vrais.
C'est ceux-là.
Ah, d'accord.
D'ailleurs, il faudrait pas qu'ils partent de là, ceux-là non plus, d'ailleurs.
Non.
Enfin bon, pour l'instant, ça. Ah oui, oui, parce qu'il y avait un espace à éclairer. Il y a un certain temps à éclairer. Et il y avait un code passé par radio. Donc, par la préfecture, donc qui donnait un code, un mot, et avec ce code-là, le gardien savait qu'il devait occulter la lanterne. Et il devait consigner sur le cahier de guerre, et il devait recontacter par radio pour dire que code accompli, et donc c'était des mots comme ça. Mais c'est vrai que, comme il y avait les Allemands dans les fers, donc. J'étais bien obligé de parler par code quoi. Alors là ça a causé des problèmes aussi parce que bon les gardiens profitaient que les Allemands soient en train de dormir ou qu'ils soient en train de manger ou boire, enfin bref, ils s'arrangeaient toujours pour mettre les panneaux en place.
C'est acte de résistance.
Oui. Ouais.
J'ai lu dans les papiers aussi que les Allemands venaient réquisitionner du pétrole dans les phares. Jusque dans les phares, ils allaient chercher du pétrole.
Ouais, c'est de la folie, quoi. Ouais.
Est-ce que il existe encore des lettres cachetées?
Ouais. Ah oh, oui, ça doit y en avoir au parc, je suppose.
Mais normalement, encore aujourd'hui, ça doit exister,
bon,
non?
C'est possible.
Je pense.
Ouais.
Ouais. Parce qu'en temps de guerre,
que je regarde,
le gardien avait des consignes, en fait, qui étaient données par l'ingénieur, représentant de l'État, pour en temps de guerre, bah, justement, occulter la lumière du phare ou essayer de protéger le matériel. Et c'est ce que le Braz a essayé pendant la guerre, en faisant règle de résistance, de protéger le plus possible, de cacher même parfois le matériel, pour ne pas que les Allemands le réquisitionnent.
Ouais, de ces courriers-là, j'en ai jamais eu. Hein.
Non, je suis en relation avec le fils Le Braz. Tu sais.
Ah oui, oui. Ah bah oui, lui, je l'ai vu déjà bah, quand j'étais au Yo, là. Il allait faire de la plongée là-bas.
Oui, voilà. Il est formidable ce gars-là.
Ouais.
Il me prête plein de choses.
Il nous avait envoyé, il avait remonté des ormeaux. Oh, des sacrés steaks là.
Ah ouais.
Oh. Allez, faire des yo, tiens, pour les ormeaux là.
C'est formidable, hein.
C'était. Ouais, mais maintenant, tout ce qui flotte, maintenant, ça sort. Alors, oh, quand c'est les marées, moi, je vois la sortie des Ardrieux là. Ouais, tous les petits canots, tous les machins, c'est l'invasion maintenant. Ah oh, ouais. Même les paysans de l'intérieur des terres s'y mettent, alors pour vous dire. Enfin, ils ont le droit, hein. Mais disons qu'avant, bon, il y avait moyen de faire une bonne pêche. Mais maintenant, il faut vraiment. Faut chercher, quoi. Oui, et puis les gens sont plus respectueux. Avant, on retournait le caillou dans le sens où il était. Bon, maintenant, il y a des viandards. Moi, j'appelle, je les compare à des chasseurs, les viandards, là, pareil. Oh, c'est détruire. Vraiment, quand on voit les trucs, moi, je dis. Ça devrait être pénalisé, ces gars-là, on devrait leur foutre des amendes, quoi. C'est lamentable de voir ça. Ouais.
Oh, est-ce que tu étais au phare du Grand Légion?
Non.
Ah, c'est celui que t'as pas fait, je crois.
Celui-là, j'ai pas fait. Ouais, j'aurais bien voulu le faire, celui-là. Ouais.
Tu vois, il est sous-marin aussi. Hein.
Ouais. François, je crois qu'il a été. Ouais.
François et Gérard aussi.
Gérard aussi, ouais.
C'est un des phares qui a le plus impressionné, il me disait.
Ouais. Il y a un gars qui habite Pommery-de-Jody, là, qui a été gardien dedans aussi.
Ah bon?
Ouais.
Ah tiens, c'est intéressant ça.
Oh. Et il a fini son temps au parc comme taulier soudeur.
Ah ouais?
Ouais. Oh, comment il s'appelait celui-là déjà? Oh, il était gentil. Lui, je sais. D'ailleurs, il a dû faire des fers d'Afrique aussi.
Ah, oh, ça serait intéressant d'aller voir ce gars-là.
Ouais, il a dû faire des phares d'Afrique.
Comment il peut s'appeler?
Ah, bon sang, c'est un petit pépère là. Bah, si on s'agit, bah, on se serait bien entendu offert, je suis sûr.
Ah.
Ouais. Oh là là, je commence à perdre la mémoire aussi, moi.
Ah, Pobric, tu dis. Moi, j'ai demandé au maire de Pobric, il doit savoir. Dédé le Moelle, c'est un copain, je lui ai demandé.
Bah, même au parc à Brest, il a ah, presque si à les Andrieux.
Ils doivent savoir.
Ouais, il a travaillé avec le père Auverge. Bah, le père Aguirre Auverge qui est chef mécanicien là maintenant là quoi.
Ouais.
Attends, je vais noter. Bah, demande à Guy, même Guy doit connaître son nom. Hein.
D'accord.
Guy Auverge. Oh. Oh, ça c'est terrible hein, quand. Moi les noms, la mémoire des noms, c'est terrible. Autant je pourrais retenir des trucs, plein de choses, et alors les noms, c'est affolant quoi.
Je trouverais. Et s'il était en Afrique, c'est
intéressant. Ouais.
Et pourquoi le phare du Légion, c'est un sous-marin?
Les paquets passent par-dessus comme l'Armène. Ouais.
C'est des vagues de combien de hauteur?
Oh là, bah quand ça claque, en fait, ça monte, parce que là, le Grand Légion, c'est un plateau de roche, en fait. Et donc la mer monte sur le plateau de roche et ça prend de l'élan et ça vient claquer contre le fer, puis ça passe par-dessus, quoi. Bon, là, il y a eu des disparitions de gardiens aussi, là-dedans.
Bon.
Ah, t'as jamais entendu parler de ça?
Ah, non.
Ah. Bah, t'auras qu'à lui en parler, au gars, là.
Bon, d'accord.
J'arriverai peut-être à trouver son nom.
Je vais essayer de présenter. Au château, on va présenter. On va essayer. Quels sont les bateaux baliseurs ou les bateaux.
C'est pour le fils, parce que comme je suis tout seul, là, c'est pour lui faire la casse-croûte.
Ok, non, mais 5 minutes alors, ça ne t'embête plus. Les bateaux baliseurs que tu as connus, toi?
Bah, le Georges Joly. Hein.
Tu as connu le Georges Joly?
Ouais.
Quand il venait faire des travaux, relever le bruit.
Ouais.
Est-ce que tu as connu le Roche Gautier?
Oui, oh, Madoué, oui. Oh, Federlev aussi à Oyo avec. Oh, ça c'était un sabot, ça. Il était lent. Lent. Mais n'empêche, il tenait bien la mer, quoi.
Voilà.
Ça, c'est des bateaux comme ça. Oh là là là. Ouais.
C'est le Brass qui me disait que c'était un. Enfin, qui. Je crois qu'il était construit chez Roland à Primel, je crois.
Ah, c'est possible, oui.
Et il écrivait au charpentier. Le Brass, donc l'ancien ingénieur, pour nous dire que c'était un très bon bateau, très sûr.
Ah oui, oui. Ah, celui-là, on pouvait être tranquille. Ah, il tenait la mer, lui. Hein. Un ancien bateau en bois, là. Costaud, avec un sacré mât de charge. Alors, dans celui-là, on pouvait charger. Hein. Alors, c'est pas comme le bateau de travaux qu'ils ont fait, là. Celui-là, c'est. On m'a donné un jouet à côté. Ah ouais.
Et parce qu'ils ont. Il a servi à la reconstruction des roches d'eau, à porter du matériel. Hein. Mmh. J'ai son cahier
de... Il y avait eu un ancien bateau aussi, le Titan. Ma mère, par contre, l'a bien connu, celui-là.
Ah ouais.
Ouais. Ouais.
J'ai une photo du Titan et on va voir la barre à roue du Titan. Ouais.
Puisqu'elle habitait au moulin à mer. Donc à chaque fois que les le bateau passait pour.
Ta mère habitait au moulin à mer.
Ouais.
Ah d'accord. Ouais. Là où il y a une
Oui, où il y a les ostréiculteurs là maintenant.
Ah d'accord.
Ouais.
Elle habitait là, la maison qui est juste.
Ouais, petite maison là en bas là.
Ah d'accord.
Ouais.
Ah je vois.
Ouais. Ouais, j'ai entendu parler de tous ces trucs là.
J'ai retrouvé une photo du Titan. Je te demande juste 2-3 trucs, après c'est fini. Joël Le Busulier.
Oui.
Tu connais ces valeurs?
Oui.
Il est sympathique. Tu peux le redire là, s'il te plaît? Pour que je puisse enregistrer.
La densité?
Oui, en fait, ici, donc il y a 10 litres de mercure donc, dans la cuve. Ah, donc ça, j'ai vérifié, puisque quand on avait fait le nettoyage le dernier coup, donc j'étais là. Donc il y a 10 litres de mercure. Et la densité du mercure est de 13,6. Donc ça vous fait en fait 136 kg de mercure. Quoi, hein. Puisque le mercure en fait a été utilisé pour trois raisons. Quoi, hein. Par rapport à sa très forte densité, il supporte des points importants sans déborder. Comme c'est un liquide, donc c'est toujours, l'optique est toujours à l'horizontale. Et comme ça flotte dessus, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'usure. Voilà.
Et
c'est pratiquement inusable. Quoi, hein. On ne va pas dire que c'est inusable, c'est pas inusable à 100%, puisque le mercure c'est un métal. Et comme tous les métaux, ils s'oxydent. Et l'oxyde de mercure, c'est une poudre blanche. Et en fait, donc, avec le système de la cuve qui est en fonte d'acier, donc on ne peut pas mettre de peinture à l'intérieur non plus par rapport au mercure. Donc ça, ça arrive à piquer avec la rouille aussi, cette cuve-là. Donc plus la poussière et la condensation, donc ça arrive à freiner la rotation petit à petit. Et c'est pour ça qu'on vidange le mercure entre 7 et 10 ans, quoi, tous les 10 ans en moyenne, quoi. Hein. Et donc on filtre le mercure, donc on récupère toutes les saletés dans un filtre. Et donc le mercure, on le met dans les bouteilles métalliques, hein, puisque les bouteilles plastiques ça éclaterait.
Ou en porcelaine.
Voilà. Et donc en fait, le mercure là, on le réutilise. Donc on le remet dans la cuve quand la cuve a été nettoyée. Et en fait, on en rajoute un tout petit peu pour refaire le niveau. Mais en fait, il n'en faut pas beaucoup plus, quoi. Hein. Donc en fait, c'est inusable. Alors c'est vrai que le mercure, ça fait peur. Mais comme je dis, bon ben, c'est pas plus dangereux que, hein, qu'une voiture dans les mains de quelqu'un d'inexpérimenté, quoi. Hein. C'est comme tout, faut savoir l'utiliser, quoi. Faut prendre des précautions, quoi. Mais bon, là, tel qu'il est là, bon, c'est pas dangereux. Hein, la preuve, on l'a ramassé à la pelle et la balayette. Alors donc, on est encore là. Bon, c'est vrai qu'il commençait à avoir des trous de mémoire. Hein.
C'est que le vent.